Merci d'être avec nous autres à Boulevard 102.1. Merci d'avoir choisi Gravel dans le retour. Il est 15h01. Sur les routes, Audrey, quand même, de gros problèmes, secteur des ponts.
Oui, bien là, c'est ça. Je suis en train de lire un peu tout ce qui se passe, là, parce que sur le pont, je vous disais tantôt que c'était super difficile de circuler. Puis il y a plusieurs textos qui sont entrés. Puis ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a carrément des voies de bloquées. Direction Nord, entre autres. Véro en parlait tantôt en début de bulletin, mais tout ce qui est vent. Fait que c'est une grosse journée pour tout ce qui entoure le pont au niveau circulation. Pour vous donner une idée, Henri IV, là, à partir de Versant Nord, on sent le ralentissement jusqu'à l'entrée des ponts. Duplessis, chemin Sainte-Foy au pont. Puis à la sortie des ponts, c'est difficile aussi. Il y avait un accident en plus tantôt qui ralentissait le tout également. Peut-être ajouter rapidement que sur la capitale, direction Est, hauteur Robert Bourassa, voie de droite qui est bloquée, les policiers qui sont arrivés sur place. Et sur l'autoroute 573 Nord, route de la Bravo, finalement, après l'avenue industrielle, la voie de gauche qui est bloquée, voie de droite partiellement entravée, accident qui vient juste d'arriver, les services d'urgence qui sont sur place.
Les vents qui ne feront pas beaucoup relâche dans les 24 prochaines heures. Résultat, on vous avertit, il y aura des épisodes de poudrerie peut-être en soirée. Il y a un 60 % de probabilité d'averse de neige. Le mercure qui est en descente présentement à Québec, on est à moins 5. On va descendre à moins 7 d'ici la fin de l'après-midi et à moins 16 pour ce soir et cette nuit. Toujours des rafales entre 60 et 80 km/h. Demain, moins venteux avec du soleil, maximum de moins 5 degrés. On prévoit de la neige pour jeudi et vendredi avec des maximums de 0 et de 2 degrés. Je sais que c'est une journée particulièrement problématique sur les ponts, mais quand on se compare, faut dire qu'on part de loin. Et je suis obsédé par cette série de reportages du journal Le Soleil, faite en collaboration avec les Archives nationales de Québec. Et le reportage de cette semaine de Jean-Simon Gagné dans Le Soleil, c'est pour nous parler du premier lien hivernal entre la rive nord et la rive sud. Un lien qui n'était pas fiable, un lien qui était dangereux, un lien qui n'était pas disponible à toutes les années, le pont de glace.
Tu sais que ça existe encore au Québec, des ponts de glace?
Oui, mais l'aurais-tu pris, toi, le pont de glace dans le temps?
Entre
Québec et Lévis, mais mettons, là, on dit la glace est assez solide.
Quand t'as pas le choix, parce que c'est dans le Témiscouata qu'il y a un pont de glace de 1,5 km, ça existe encore aujourd'hui. Ça sauve un détour de je sais pas combien de kilomètres.
L'hiver, les chars passent. L'hiver, carré sur la glace.
Exactement.
Ah, non.
Ça existe
non.
encore.
L'angoisse.
Ouais, mais tu sais, quand les gens vont à pêche
je reste
sur la
mon
glace.
Bord. Je reste de mon bord. Moi, je vais pas là.
Ironiquement, en skidoo, ça me dérange pas.
Je suis comme toi.
Mais en char, je trouve qu'on est comme trop en même temps.
Ben, c'est pour ça qu'il y a des règles sur les ponts de glace. Hey,
moi, j'ai vu des villages de pêche à Saint-Fulgence, dans mon coin, au Saguenay, où les pick-up embarquaient sur la glace, puis tout. Mais moi, je n'ai vu un planté, là.
Dans ce coin-là dont tu parles, j'étais allée à la pêche à la glace sur la glace avec mes parents. Puis à un moment donné, on n'a pas eu le choix d'évacuer. Puis tu sors. Puis tu vois les glaces qui commencent à se défaire autour de toi. J'ai eu la chienne. Fait que non, les ponts de glace, moyen en 2026.
Le pont de glace entre Québec et Lévis ne s'est pas formé à toutes les années, mais selon la Société historique de Québec, à 83 reprises, entre 1620 et 1910, on a eu un pont de glace. Ça, c'est moins d'un hiver sur trois. Le lien temporaire entre les deux rives, d'habitude, se formait au début du mois de janvier, puis on était capable de le tenir ouvert ou praticable jusqu'à la mi-avril. Puis sous la pression créée par le courant et les marées, l'épaisseur de la glace peut varier de 3 à 6 mètres. Le pont, entre guillemets, permet la circulation des gens et des marchandises, facilite les échanges entre les deux rives. Mais déjà, à l'époque, il n'y a pas juste des partisans pour le premier lien entre Québec et Lévis. Son apparition fait perdre de précieux revenus aux canotiers qui gagnent leur vie en faisant traverser le fleuve sur leurs embarcations. Le problème, c'est que les canotiers n'avaient pas une très bonne réputation à l'époque. On les accuse même de saboter le pont de glace. En 1865, la ville de Lévis adopte un règlement qui prévoit des amendes sévères pour quiconque oserait abîmer la structure de glace. À partir des années 1860, le pont de glace est pas mal plus une affaire organisée. Il y a un inspecteur qui supervise les travaux pour égaliser la surface. On prend ça à cœur. Le parcours est balisé de sapins Quelques tavernes profitent du flou juridique pour s'installer sur les lieux.
Les bières de route.
Un vrai pit stop. Un vrai de vrai pit stop sur le milieu du fleuve. Là, soudainement, je prendrais peut-être un risque ou deux. Puis on dit que le fait de s'installer sur le fleuve, ça permet d'échapper aux taxes et aux permis. Parce que t'es pas à Lévis. Puis t'es pas à Québec.
Fait qu'il y en a que c'était juste ça, leur transport.
Eux autres se sont servis d'un flou juridique pour installer le patente sur le fleuve.
Ah ben oui, c'est bien que trop vrai.
Puis il n'y avait pas
c'est
à avoir. Il n'y avait pas à avoir de permis. Puis il n'y avait pas à avoir de taxes.
Oh ouais.
C'était wise. Au printemps, les dernières traversées se révèlent un peu plus aventureuses. Le 14 avril 1884, le journal L'Événement raconte qu'il est devenu impossible de traverser le pont de glace en calèche sans courir à une mort certaine. Il précise qu'un petit nombre de braves s'y risquent encore à pied. Aille penser à la longueur de la traversée.
Non.
Avec le vent d'en face.
Aucun plaisir.
Êtes-vous malade? Le 10 avril 1892, le journal La Patrie prévient que le pont de glace pourrait se briser d'un jour à l'autre. Les cochers réclame désormais 5 $ pour la traversée. En argent de 2026, c'est 178 $.
Le risque se paie.
Fait à signaler, les cochers n'étaient pas fous. Ils prenaient des vieilles picouilles pour traverser le fleuve au cas où.
T'sais, si on pas à payer l'euthanasie.
Si on le perd dans la glace, au pire, grave, on n'aura pas perdu nos meilleurs chevaux. C'est malade pareil de penser à ça.
C'est
là. Le dernier véritable pont de glace s'est formé en 1898. Avec le temps, on voit apparaître des traversiers à vapeur qui sont capables de passer à travers la glace. Puis plus tard, ben, tu as des vrais brise-glaces qui ont assuré le passage des navires parce qu'essentiellement, c'était vraiment pour le transport et le transfert de marchandises qu'on l'utilisait le plus. Ça n'empêche pas les glaces de se figer entre les deux rives lors d'un hiver où il fait plus froid que la normale. En janvier 1968, c'est pas si loin derrière, ça a pris 9 brise-glaces pour réussir à passer à travers un embâcle à la hauteur du pont de Québec. À certains endroits, il y avait 12 mètres de glace d'épaisseur. Ça a pris 9 brise-glaces pour en venir à bout.
C'est intense pareil. On dirait que dans ma tête, c'est pas aussi épais.
C'est spécial, puis il y a un autre reportage qui a été fait en fin de semaine dans le soleil, puis on se le gardera pour plus tard cette semaine. C'est qu'on a fait l'historique de tous les projets qui ont été proposés au fil du temps pour lier les deux rives. Parce que vous le savez, on a fait 2 ponts.
Ben oui.
On a fait d'abord le pont de Québec. On a fait ensuite le pont Pierre-Laporte.
Oui. On a mis des traversiers qui sont on and off.
Mais le premier projet auquel on a pensé avant de faire le pont de Québec, c'était de faire un tunnel. La première fois qu'on a commencé à parler de quelque chose de permanent, on voulait quelque chose qui était futuriste. Puis au fil des années et au fil des projets, le tunnel, il revenait tout le temps, de plein de façons. Même dans
ça, c'est en quelle année?
Là, je te parle à partir du moment où on a commencé à bâtir le pont de Québec, okay. Fait qu'on est à la fin des années 1800. Jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a des projets là, qui étaient way out, là, presque aussi visionnairement stupides que le fameux bitube là, qu'on nous avait proposé il n'y a pas si longtemps avec la CAQ. Fait que si ça vous tente et que ça vous branche, on se fera une petite leçon d'histoire numéro 2, jeudi ou vendredi, avec tous les projets et toutes les idées de premier, de deuxième et de troisième lien
tellement
qui ont été faites au cours du dernier siècle. Puis je veux saluer Jean-Simon Gagné et Yann Bussière, qui sont les deux qui fouillent là-dedans. Moi, je trouve ça tellement intéressant puis tellement extraordinaire. Puis de réaliser que, ouais, des fois, ça avance pas à notre goût, mais on a quand même un petit bout de fête.
Hey, des tunnels routiers,
oui.
Ça a commencé à se construire dans les années 1830.
Oui.
Vous comprendrez que ceux-là, ils ont fini par être fermés au détour des années 2000. Mais je me demandais, le Lincoln Tunnel, qui relie le New Jersey à l'île de Manhattan, c'est ça date de quelle année?
Quelle année?
1934.
Oui.
Puis on l'utilise encore aujourd'hui, là. On aurait peut-être dû faire un tunnel dans le temps, finalement.
Je ne sais pas si en 1934, c'était dans des grands travaux où on voulait faire travailler le monde. On était en plein crash économique.
C'est fort possible.
Fallait se lancer dans des projets de cette envergure-là parce que dans les années d'avant, tu avais eu les gratte-ciels là, qui avaient commencé à pousser dans le ciel de New York. C'est peut-être une des idées ou une des mesures qu'on s'était dit, là, il faut travailler d'aplomb là-dessus parce que ça prend du monde qui travaille présentement pour essayer de relancer l'économie. Le monde mourrait de faim dans les rues, là. à New York dans ces années-là. Tabarnouche, je suis en train de m'auto-intéresser et de m'auto-intriguer. Je pense que je vais aller fouiller là-dessus.
Mais,
je veux pas parler à travers mon chapeau. Je n'étais pas là dans le temps, Audrey, en passant, si tu te poses la question. Là,
Ben, c'est drôle que tu en parles parce que je voulais te la poser, je n'étais pas certaine.
1978, l'année de naissance. Il est 3h10, on ne s'arrête pas longtemps. S'il y a quoi que ce soit sur les routes ou ailleurs, 418-971-1021, peut-être rappeler le problème des ponts.
Moi, ben, sur les ponts, c'est vraiment difficile. Il y a des voies de fermées, le vent, entre autres, qui n'est vraiment pas la patente, ce qui fait en sorte que si vous êtes sur Henri IV Sud, à partir de Charest jusqu'à l'entrée des ponts, super difficile de circuler. Des problèmes aussi sur Duplessis Sud, de chemin Sainte-Foy au pont. Et à la sortie des ponts, toujours direction sud, là, près de la 20, il y a un accident d'ailleurs dans la bretelle pour aller chercher la... Non, plutôt dans l'autre sens, pardon. La 20 direction ouest dans la bretelle pour aller chercher le pont direction nord. Ce qui fait que dans les deux directions en ce moment où le pont, là, c'est bordélique.
On parlait de pont de glace. Julie nous rappelle que pour aller à la polyvalente de l'ancienne Lorette, chaque hiver, les ados font un sentier-pont sur la rivière
encore
Lorette
là.
Pour sauver le détour par le pont. Je me souviens qu'à l'automne et ou au printemps, c'est toujours un guess hein, de savoir si on peut encore passer par là ou pas. Il y en a-tu qui le prennent encore juste pour le fun? 418-971-1021. On revient. 15h18, vous êtes à Boulevard. On aimerait que le soleil vole la vedette, mais c'est encore les vents qui retiennent l'attention et qui causent des problèmes de circulation majeurs.
Dans les deux directions en ce moment, si vous vous dirigez vers le pont, là, c'est catastrophique. Henri IV Sud, à partir, je vous dirais, de Charest, ça ralentit jusqu'à l'entrée du pont La Porte, Duplessis Sud, versant nord au pont. Il y a un incident si vous êtes sur la 20 ouest dans la bretelle pour aller chercher le pont direction nord, ce qui fait que les deux bouts, mettons, là, particulièrement rough en ce moment. Sur la capitale, direction est, hauteur Robert Bourassa, au ralenti également. Évidemment, il y a autre chose. 88-971-102 texto.
Avez-vous perdu des affaires chez vous à cause du vent aujourd'hui?
Tu veux dire?
Parce que j'ai vu des poubelles se promener partout.
Mon âme.
Ton arme est partie, ouais.
Tes belles boucles de cheveux.
En part ça, tout est en place.
Non, mais tu sais, des grosses poubelles dans les cours des commerces, c'est des poubelles commerciales qui partent pas au vent d'habitude, qui s'étaient en fugue.
Je suis passé dans une rue où c'était les poubelles aujourd'hui, là, puis d'un côté, il n'y a pas de poubelles, puis de l'autre côté, chaque maison a deux poubelles. Ouais.
Je me demandais pourquoi c'est les promené. Gens écrivaient leur adresse sur leur poubelle. Je suis comme, mais voyons, ils agèrent tout le temps. Aujourd'hui, j'ai compris.
Ce soir... C'est Canadien Bruins,
ouais.
Une grosse, grosse game de hockey. Et ça tombe bien parce que ce soir, c'est la province de Québec d'un côté et Boston de l'autre. Deux endroits qui ont un héritage irlandais très, très fort parce qu'il y a eu plusieurs vagues d'immigration.
Oui. Est-ce que les Bruins ont un chandail aux couleurs Irish? Ou c'est juste les Red Sox qui font ça?
Non, ils en ont. Je pense pas qu'ils les portent pour les matchs.
Okay.
Je pense qu'on les porte pour les entraînements et pour en vendre. Puis ils en vendent beaucoup. Mais oui, il y a des chandails Irish des Bruins de Boston.
Tu l'achètes à quelle heure ce soir?
Qui est une ville avec un héritage irlandais très, très fort. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, messieurs, dames, c'est la Saint-Patrick. Et on a décidé de souligner... La fête des Irlandais. En invitant notre maître mixologue, notre magicien du cocktail. Heureux mélange, Raphaël Nadeau. Comment est-ce qu'il va, cher ami?
Écoute, il va vraiment bien. Vous avez un de mes cocktails chouchou, un de mes cocktails coup de cœur entre les mains.
T'as pris une bière blonde puis t'as mis du colorant vert dedans.
Non.
Quoique, si ça prend rien que ça pour vous rendre heureux, gênez-vous surtout pas. Là.
Oui, vous le savez, je suis tout le temps, je suis pas un puriste du cocktail. On fait ce qu'on aime, c'est pas moi qui vais le boire, c'est vous. Alors faites ce que vous aimez, les amis.
Là, t'es tombé dans la talle aujourd'hui parce que on a tous des goûts différents, mais il y a des endroits où on se rejoint
des
un peu.
Terrains communs, ouais.
Moi et Audrey, aujourd'hui, là, on est aux anges.
T'as-tu ça, ta barbe?
La mousse dans la moustache. Avant d'avoir la rage.
Et moi,
excuse,
de garder.
Je voulais pas couper ton élan.
Dis-moi que c'était sur le Twitch, Audrey. Dis-moi que c'était sur le Twitch.
J'avais une moustache de mousse.
Oui, je vais regarder, c'était brun dans ta barbe, c'est un méchant temps.
J'étais en train
T'avais l'air d'un morse qui rageait un peu.
Mais oui, on se rejoint, c'est vraiment notre type de cocktail.
Oh my God.
Ça paraît moins sur ta moustache que ça.
Oui,
vient,
c'est
je te
ça.
Le confirme.
Elle a rasé un matin.
L'entretien, tu sais.
À la dernière chronique des Olympiques, on était entrecoupés de tout. J'avais dit, Denis, je suis inébranlable. Mm. À tes deux premières gorgées, tu te fais une moustache d'elle, tel un morse, et je reste focus. Je n'en parle pas.
Un vrai professionnel.
Jusqu'à temps qu'Audrey
Ah, mais moi, je peux pas le garder pour moi, là. Mais non, voyons.
Faut que je reste neutre. T'es parti de quoi pour à la base, ton inspiration aujourd'hui?
Certainement la Sainte-Patrick elle-même, de un. Et il faut rester dans nos origines chez nous, pas non plus se dénaturer. Donc, j'ai pris une boisson à l'érable. À la maison, on peut prendre une vodka ou un whisky à l'érable parce qu'on reste Irish, les amis. Donc, j'étais là, puis je me disais, ah, un espresso martini.
Ben oui.
C'est bon, c'est Wake Up Carl. On est là-dedans. Mais pourquoi pas aller chercher aussi une bonne stout? Et on en a, bien sûr, les images nous viennent de partout à travers le monde d'une bonne bière noire, mais on en a chez nous, digne, celle-ci, la Alchimiste. Une stout vraiment de soif aussi.
Je trouve ça tellement drôle que tu aies mixé le principe de la stout avec l'espresso martini parce que dans les trends sur les médias sociaux, tu as la fille qui va dater un gars qui tripe sa Guinness, puis tu la vois que pendant qu'il est aux toilettes, elle demande un verre vide, puis elle remplit avec des espresso martini, puis tu as une mousse qui est comparable entre les deux, fait que ça passe super bien.
Et vous l'avez vu aussi, ceux qui sont sur Twitch ou autre, on est arrivé avec des belles coupettes comme à l'habitude, mais vous prenez le verre que vous voulez, la belle séparation entre la mousse blanche sur le dessus et la délicatesse, oui, d'un espresso martini, mais bien noir, d'une délicieuse stout.
Mais là, comment tu as quantifié tes affaires pour arriver à ce résultat-là? Parce que le goût, il revole de partout.
C'est incroyable.
Okay. Là, vous le savez, dans ma tête, tous les ingrédients doivent être équilibrés. Fait qu'à la distinction, je dirais, c'est de ne pas caler la bière, ne pas noyer son cocktail. C'est la même chose quand on a de l'eau gazéifiée, du tonic ou autre. C'est-à-dire, on prend un vrai espresso martini, on y va avec un once de liqueur de café, un once de notre vodka ou whisky à l'érable, un espresso de délicatesse magnifique. On met ça dans le shaker, on shake. Vous auriez pu, si vous êtes un petit côté sucré, mettre, comme j'ai dit, un trait de sirop d'érable.
Quoique, avec là, ta vodka, ton truc à l'érable, déjà, tu l'as, là, ce sucré-là.
Et voilà, mais tu sais, tout le monde, tous les goûts sont dans la nature. Je shake ça à merveille. Déjà là, c'est bon, c'est fait, on le sert, puis on triple.
Mais aussi Denis, simple que ça.
Aussi simple que ça. Un espresso, une liqueur de café, une vodka ou un fameux whisky à l'érable.
Puis, avec la... Oui, je t'écoute.
Écoute, j'allais dire, la délicieuse bière. Là, ça nous prenait une stout. Stout qui se marie extrêmement bien au café, au grain de blé. Elle est légère, en plus, une 4.4. Fait que ça peut vraiment bien se marier sans détruire ou changer un peu trop notre goût d'expression martini.
C'est pourquoi qu'Audrey... ça bonifie.
Ben oui, Audrey peut s'y référer sans dire « Ah, c'est trop un cocktail à la bière ». Là, quand je dis toujours, quand tu as choisi le bon verre, Denis, là, il reste juste assez de place pour qu'est-ce qui te reste. Fait qu'une fois que tu l'as coulé ton cocktail, il te reste un petit 2-3 pouces sur le top, t'arrives avec ta bière, tu coules ça sur le dessus, un petit tour de cuillère et c'est satisfaisant.
Ça donne un résultat extraordinaire.
Ben oui.
Puis pour les gens qui sont en voiture présentement, là, puis qui veulent se préparer un petit drink ce soir pour Canadiens versus Bruins. La recette, on va la retrouver où, là?
Elle est déjà sur le Instagram de Boulevard 102.1. Yes. Par contre, je sais que sur les médias sociaux de Rue Mélange, vous allez avoir vraiment la vidéo explicative, qui vont se retrouver. Fait que vous alliez sur le Instagram de Boulevard ou de Rue Mélange, là, vous allez retrouver ça. Puis il y a la petite bulle mixologie et cocktail 2026 dans laquelle vous retrouvez cette recette-ci, mais toutes les recettes que Raph nous partage.
Tellement. Puis on a mis aussi... pour les fins renards. Sur le dessus, quelques gouttes de better chocolaté. Ça, c'est le fun.
C'est quoi un better? Ça sert à quoi? Parce que tu vois l'Angostura, qui est probablement un des plus communs qu'on voit à l'épicerie. Mais tu sais, maintenant, là, dès que tu vas dans des boutiques un peu spécialisées, puis même il y a des épiceries qui en rendent plusieurs de disponibles, tu vas avoir une grande diversité. Mais qu'est-ce que ça fait d'ajouter un better à un cocktail?
Pour moi, c'est le cœur subtil d'un cocktail. C'est la différence entre je prends un cocktail au bar, puis mon Dieu, c'était donc bien bon, puis je leur fais la même recette chez nous, mais j'oublie le better et ce n'est pas pareil. C'est toujours à mettre en commun avec un ingrédient qu'il y a dans le cocktail ou même dans la boisson elle-même. Je prends souvent l'exemple de le bitter citron, tu pourrais le mettre dans tout parce que presque toutes les boissons ont une petite écorce de citron, un petit côté acidulé, quelque chose de plaisant et ça va l'amplifier.
J'en ai un de céleri, je le mets des fois dans des martinis.
Un bitter de céleri?
Oui, mais je le mets aussi dans des Bloody Caesar. Et
tellement, tellement. Puis même là, un margarita, tu pourrais être surprise. Hein? Tagine, bitter de céleri. Imagine, ça te fait le petit côté salade, César, c'est vraiment bon. Puis, faut pas oublier non plus que là, c'est le beurre chocolat, on pense sucré, mais le beurre, c'est amer, c'est un amassement d'herbes, c'est une macération, souvent alcoolisée, parce que là, ça finit par faire une petite distillation, mais la réalité, c'est vraiment des herbes réduites à un petit liquide qu'on reprend après l'avoir filtré.
Très concentré.
Très, très concentré.
Tout seul, c'est pas buvable. Faut vraiment mettre ça dans une recette.
Ouais, c'est pas bon.
Il y a quand même des recettes, comme le Sazerac, qu'on aura la chance de faire demander dans les old school cocktails. Okay. Le Sazerac, tu prends un once d'Agostura Bitter hein, dedans. C'est assez funky. Oh oui. Mais quand même, ce sera un autre monde. Mais oui, ça amplifie les saveurs. Ça définit aussi une saveur. Comme là, c'est cacao qui en ressort, et non pas seulement le chocolat. Fait que café de la bière, le blé de la bière, la petite pointe d'amertume. J'en ai mis trois gouttes sur le dessus.
Je trouvais que ça amenait un côté épicé à l'odeur.
Ben oui, tu m'as même parlé de cardamome
tantôt.
On
dirait que ça sent la cardamome ou quelque chose comme ça, très chaud. Là.
Ben, on est là-dedans, les amis.
Là, Raphaël, il faut que je t'explique comment je me sens parce que je suis en cure de désintoxication de café depuis une semaine. Mais par contre, ce matin, j'ai pris un café et là, je viens de prendre un espresso martini. C'est le plus proche que je me sens d'être Al Pacino dans Scarface en 1982.
Ah oui, la montagne.
J'ai l'impression que je viens de me taper le Mont Everest de cocaïne. J'ai speedé, ça n'a pas de bon sens.
Mais si ça peut t'aider, lors d'une désintox, tu en parlais toi-même, c'est important d'y aller à petite dose.
Ouais,
l'espresso
que j'ai
martini,
fait.
Non, mais l'espresso martini peut être ta petite dose en fin de soirée pour stabiliser ta journée.
J'aime ta façon de penser.
Parce qu'il y en a peu. C'est pas un café complet, c'est pas une grosse tasse à l'américaine. C'est vraiment bien balancé.
T'as raison. Hey, ce drink-là est extraordinaire.
Puis dans la région de Québec, on est choyé parce qu'on peut étirer la Saint-Patrick. Parce que vous le savez, nos festivités débutent aujourd'hui et se poursuivent jusqu'au 28 mars. Puis ça se conclut toujours avec la fameuse parade, la Sainte-Pat. Puis pourquoi on le fait avec un aussi grand délai? C'est que pour la fête, on invite du monde. Fait qu'on se retrouve avec tous les groupes de cornemuses et de percussions de Toronto, de Boston, de New York, de Chicago. Si vous avez jamais vécu ce trip-là dans les rues, entre autres du Vieux-Québec, mais dans le secteur de Cartier et de Fraser, c'est toujours tellement agréable. Puis ça se déroule le 28 mars prochain. Fait que vous aurez bien l'opportunité de vous refaire des espressos martini avec une petite touche de bière dedans.
Puis pourquoi pas la mettre dans un thermos?
Oh! Là, tu parles! Hey, Raphaël, merci beaucoup!
Merci à toi!
Raphaël Nadeau, alias Heureux Mélange sur Instagram. Inspirez-vous de la Saint-Patrick pour bâtir votre soirée. Je sais que c'est juste mardi, mais une fois de temps en temps, faire semblant que c'est un jeudi ou un vendredi. Avec une game Canadien-Bruins, ce qu'on appelle un match de 4 points, Véro?
Oui, bien sûr.
Veux-tu nous expliquer c'est quoi un match de 4 points?
Un match de 4 points, c'est quand deux équipes se battent pour à peu près les mêmes positions dans un classement. Fait que si une équipe perd la partie, en plus de la perdre, elle s'éloigne encore plus de son positionnement pour faire les séries.
Tu l'expliqueras à Max Larouche.
Je sais!
C'est beaucoup plus clair comme ça.
Le dit, hein. C'est moi la personne de sport dans cette station-là.
Absolument.
Bon, il est 15h.
Je suis trop content.
15h30 à Boulevard 102.1. On s'arrête pas longtemps. On revient s'il y a quoi que ce soit à signaler. 418-971-1021. Gravel. Vous êtes à Boulevard 102.1. Ça tombe bien, nous aussi. C'est Gravel dans le retour. 418-971-1021. Il y a des avertissements pour de la poudrerie pour ce soir et cette nuit. Il y a encore un 60% de probabilité d'averse de neige. Les vents rafales, ça se poursuit. Peut-être moins fort que ce matin, mais quand même, toujours des rafales à 60-70 km/h. Faudra attendre à demain pour que ça se tranquillise un peu. Demain, on prévoit du soleil, maximum de moins 5. Mais attention, avec le refroidissement éolien, alors que les vents seront seulement à 20 km/h, on va se les geler. C'est moins 25 en matinée, moins 12 en après-midi. Audrey?
C'est quand même plate, ces routes aujourd'hui, pour vrai. Là. Capitale-Est, auteur Robert Bourassa, c'est un classique, c'est déjà au ralenti. Ouest, auteur Laurentienne. Les ponts, c'est dégueulasse. Il y a plusieurs affaires à vous mentionner. Là. Peut-être commencer direction sud. Pour commencer, bien, on a reçu plusieurs textos. Là, tout ce qui concerne les vents, ça fait en sorte qu'il y a des voies fermées. Mais là, en plus, il y a des accidents. Si vous êtes à l'entrée du pont Pierre-Laporte en ce moment, direction sud, accident qui fait que ça ajoute déjà à ce qui se passe. Henri IV Sud, à partir de Wilfrid Hamel, vous sentez un ralentissement jusqu'au pont. Fait qu'allez donc prendre, je sais pas, une bière, là, quelque chose pour essayer de passer le temps. Vous êtes pris là pour un bout. Là. C'est le même depuis le début de l'émission. Duplessis Sud, de Charré au pont Laporte, même chose. Il y avait un incident tantôt dans la bretelle 20 ouest vers le pont direction nord, ce qui a créé un certain ralentissement qui est encore là. Donc, se rendre direction nord sur le pont La Porte, c'est tout aussi compliqué de la 20 ou de la 73. Et il y a sur chemin des îles dans les deux directions à l'approche de la 20 où semble y avoir un certain ralentissement inhabituel. Autre chose, 88-971-102 texto.
Audrey, tu voulais nous parler d'une nouvelle série de télé-réalité qui est sur Netflix présentement, sans mauvais jeu de mots, qui commence à avoir pas mal d'attraction.
Oui! Ça s'appelle Age of Attraction. J'ai un penchant pour les séries un peu quétaines de télé-réalité qui servent à rien.
Ça le mérite d'être clair, j'aime ça.
Oui, vraiment.
Donc, des séries de télé-réalité.
Oui. Oui, mais il y en a des pires que d'autres.
C'est ça. T'sais, Love Island, là.
Ouais. Ou tu sais, Love is Blind, en principe, après une saison, t'as compris le principe puis t'es pas obligé de persévérer.
C'est ça. Mais pourtant, on est rendu à 10 saisons. T'sais, ça marche visiblement. Puis c'est le genre de série que j'écoute quand j'ai vraiment pas le goût de me casser la tête, que je veux rien entreprendre puis que je veux que mon cerveau soit off.
Puis si vous êtes dans le jugement, c'est beaucoup plus commun que vous pensez chez des personnes, entre autres, t'sais, qui ont des ostos de grosses jobs puis que le soir, faut qu'ils décrochent au maximum.
Juste féminin en passant.
Non, les gars aussi.
Moi, j'ai des chums de gars qui ont écouté Love is Blind et qui ont vraiment aimé ça.
C'est très sain de se mettre à off une fois de temps en temps. Ben oui.
C'est comme aller au spa sans sortir de chez vous.
Si vous avez aucune idée de ce que c'est, là, parce que je pense que ça vaut la peine quand même d'expliquer Love is Blind pour en venir à Age of Attraction. Love is Blind, c'est une série ou une télé-réalité où on a décidé de mettre des concurrents devant un mur et tu dois trouver l'amour à l'aveugle. Et si tu tombes en amour, écoute, ils sont là genre une semaine et demie là, dans les pods qu'ils appellent.
À faire des petites rencontre.
Oui, à dater à journée longue.
Ils se voient jamais.
Okay. Quand ils se choisissent, il y a une demande en mariage qui se fait parce qu'ils sont certains que c'est la personne avec qui ils veulent passer le reste de leur jour.
Mais c'est tout du beau monde.
Non.
Je trouve qu'il y a plus de belles filles que de beaux gars en général.
Je te dirais que Love is Blind ne rentre pas dans la catégorie des Love Island. Là. On n'est pas dans c'est ton corps qui va de l'avant. Là. On est vraiment dans essayer de trouver l'amour pour la personnalité. On s'entend qu'avec les saisons, le casting, c'est peut-être un peu
c'est
affiné.
Raffiné. Ouais.
Mais au départ, le but était quand même sain. Je vais dire comme ça.
L'objectif, c'est de dire que l'amour était aveugle pour vrai puis que sans les critères physiques, tu étais quand même capable de tomber amoureux véritablement.
Voilà.
En passant, j'ai vu le documentaire sur la télé réalité de Tyra Banks.
Elle est terrible, hein?
Quelle bitch!
Elle est terrible.
Je referme la parenthèse. Tu l'as vu aussi?
Elle est terrible.
Ça n'a pas de maudit bon sens.
Il n'a aucune faute. C'est toute la faute des autres.
Mais
cette femme-là est narcissique et n'a rien
incroyable.
C'est-tu une game qu'elle joue? Je m'excuse de dévier le projet.
On va
revenir dans quelques secondes. Mais c'est-tu une game qu'elle joue dans les entrevues qu'elle donne?
Non.
Parce qu'elle donne l'impression qu'elle va bien s'en tirer et qu'elle est convaincue que la série ou que le documentaire va la glorifier comme une sainte, alors qu'elle a l'air d'une fucking
tellement qu'elle finit en disant « il y a peut-être quelque chose d'autre qui s'en vient ». Elle pensait que je pense que ça lui donnerait un push. « Viens avec tes magasins de crème glacée en Australie, ma belle. »
C'est terrible.
C'est vraiment ça.
Puis si vous avez des jeunes filles qui rêvent, je sais pas, d'aller dans le monde super le fun
du
des top modèles
ou
des télé-réalités, peut-être leur faire écouter le documentaire. Je referme. La parenthèse, c'est sur Netflix.
C'est la meilleure façon probablement de leur enlever l'envie pour vrai.
Là.
Donc, Love is Blind, bref, ils se datent à l'aveugle, ils s'aiment, ils décident de se faire une demande en mariage et c'est là, Denis, qu'ils se voient pour la première fois. Et à partir de ce moment-là, quand tu te vois, tu entres dans la phase 2 de l'expérience où là, tu as un voyage d'une semaine, voire t'es-tu capable de passer du temps 24-7 ensemble.
Okay.
Et si ça, tu passes à travers ça, tu te ramasses dans un quotidien pour un mois avec la personne où là, tu reprends
plate,
ton travail.
Là.
Oui,
okay.
Exact. Tu rencontres les amis, etc. Puis au bout de ce mois-là, tu vas, tu te maries et tu as le choix de dire « I do » ou pas. Tu comprends?
Okay. Il y a c'est comme un condensé de vie. Là.
Exact. C'est un condensé de vie en deux mois et demi. Ça, c'est Love is Blind qui a ouvert la porte à un nouveau type de télé-réalité un peu plus sain, entre guillemets, où on essaie de trouver du vrai monde qui vont tomber en amour pour vrai.
Et de briser les stéréotypes.
Exact. Moi, je pensais ça que c'était le bout du bout de ce qu'on pouvait créer en frais de télé-réalité après tout ce qui a été fait. Et là, on arrive la semaine passée, il y a 6 jours précisément, avec Age of Attraction. Cette série-là, télé-réalité encore une fois, on prend 40 personnes entre 22 ans et 60 ans.
Okay.
Et on fait un peu le même principe où on les met dans une espèce de villa. Là, et là, speed dating, eux autres se voient, mais il y a une donnée qu'ils ne connaîtront jamais, puis tu ne peux pas te diriger vers ça dans tes conversations, c'est l'âge.
Mais en même temps, ils se voient.
Ils se voient.
Oui, oui, ils se voient, mais sauf que Denis, il y a...
Le Botox fait des miracles.
T'as le Botox qui fait des miracles, t'en as que leur génétique vont faire pas l'impression du même âge. Tu sais, c'est assez diversifié.
Le voyez-vous, l'âge, vous autres, à TV? Ils vous le montrent-tu au début?
Pas avec tout le monde.
Tu sais, le gars qui a 64, mettons, là,
vous le savez, en partant. En
dans les entrevues, écoute, il y a peut-être deux personnes qui finissent par le dire, puis eux poursuivent pas l'aventure. Ils cachent même pour nous, parce que le clou du spectacle, c'est un peu ça. Au lieu d'une demande en mariage, comme dans Love is Blind, ils s'en vont dans la Promise Room, qui appelle, quand ils ont décidé de se dater. Fait que, mettons, toi puis moi, on fait l'expérience ensemble, OK? Mm-hmm. Au bout de quelques jours, on se dit, crime, ça fit vraiment.
Ça va donner quelque chose.
On s'en va dans la fameuse Promise Room. Et là, on se dit, ben regarde, on continue l'expérience ensemble dans le monde réel, où là, ils sont suivis pendant plusieurs semaines. Et donc, on se révèle notre âge.
OK.
Puis c'est là qu'ils le savent. Et là, t'as des chocs, t'as du monde qui capote, t'as du monde qui, OK, on peut faire avec.
Parce qu'il y a des gens qui paraissent terriblement bien. Puis nous, on a commencé à le regarder le premier épisode en couple, mon amoureux puis moi. Puis là, on s'amusait à dire, ah, c'est sûr que c'est elle qui est la plus vieille. Ah, c'est sûr. Puis il y en a, là, c'est à s'y méprendre. Il y en a que c'est évident.
Avez-vous une différence d'âge?
Oui, je suis un petit peu plus vieille.
OK.
Ouais.
Okay. Mais tu sais, pour te donner une idée, Denis, là, dans la Promise Room, puis là, je veux pas donner trop de détails parce que, sincèrement, moi, je pensais qu'on avait fait le tour. Et pour vrai, je me suis laissée prendre au fait de vraiment aimer cette télé-réalité-là.
Le casting est bon. Ils ont vraiment choisi des gens qui recherchent une relation pour vrai. Là.
Ah oui, tu sens qu'ils sont vraiment sérieux dans leur façon de dater. Il y en a qui sont désespérés, tu sais, parce que, tu sais, mettons, tu as une femme, là, elle est dans la cinquantaine, magnifique femme, OK? Elle rencontre un gars, puis tu te rends compte quand ils vont dans la Promise Room qui ont 27 ans de différence. Mais elle, la dame, là, elle a une fille de 29 ans, un gars de 24 ans, puis un gars de 21 ans. Fait que le gars qui a date avec qui est en train de tomber en amour, là, il a 2 ans plus jeune que sa plus vieille. Fait que tu comprends, c'est tout ça que ça remet en perspective.
OK. OK.
Puis t'as des hommes, puis là, je vais utiliser l'expression parce qu'on l'utilise dans la série, là. Il y a une femme à la peau noire à un moment donné qui dit, c'est pas ça qu'ils disent, black don't crack, c'est quelque chose comme ça. Comme les Latinas qui ont une peau éternelle, mon Dieu, on dirait qu'ils vieillissent jamais. Mais c'est là que tu vois que t'as des hommes ou des femmes qui atteignent jusqu'à 60 ans. Je vous le dis, c'est entre 22 et 60 ans.
Mais là, je veux juste bien comprendre. Il y a des gens qui tombent en amour, puis à partir du moment où ils se révèlent leurs âges respectifs, ils ont un mouvement de recul puis ils paniquent.
Bien, il y en a qui vont paniquer, mais là, ils ont fait le choix d'essayer.
Denis, si demain matin, mettons, j'ai des enfants dans la vingtaine, quand je suis rendue à 50 quelques années, puis que je rencontre un gars qui est dans ces âges-là, je m'excuse, c'est turn off majeur.
T'es pas à l'épicerie, là. T'es dans une émission qui s'appelle Age of Attraction.
Mais il y a peut-être des limites à différents âges aussi.
Au-delà de ça, tu sais, ta première réaction, ça a été, Denis, bien, ça paraît pas. T'es pas capable de dire à peu près les gens ont quel âge. Je pense que tu t'inscris à ça. C'est ce que tu te dis. Je vais être capable d'à peu près être dans un range qui ressemble au mien.
J'ai un couple dans mon entourage où le chum a déjà passé pour le fils de sa conjointe.
Comme dans l'annonce, là?
Yeah, je vais même pousser.
Tu comprendras que c'est une pression. Là.
Avez-vous vu l'annonce des malaises à la TV? Là? C'est la madame qui reçoit, puis il y a une de ses amies de filles qui arrive, puis « Oh, t'as amené ton grand garçon, puis il est donc bien beau, belle pièce d'homme. Annie, je te présente mon nouveau conjoint. »
Oh mon Dieu, le malaise!
C'est tellement drôle!
Mais tu sais, puis t'as des gens qui ont des situations de vie de toutes sortes. Tu sais, on a déjà parlé en nombre, puis c'est pour ça que je voulais tellement qu'on en parle ensemble.
Ouais.
Toi, t'as 18 ans de différence avec ta blonde.
Oui.
Mais imagine que super jeune, puis là, je te mets dans le contexte d'Age of Attraction, super jeune à 18 ans, toi, t'aurais eu un flow.
Mm-hmm.
Puis que ton kid, ton gars, a l'âge actuel de ta blonde.
Mm-hmm.
Tu sais,
la dynamique est différente.
La
non?
dynamique est différente. Il y a une crainte du jugement, il y a une crainte du monde réel, de ce que les gens vont penser. Ta famille, vas-tu accepter ça? Et ça va-tu créer plus de marde qu'autre chose? T'sais, il y a tellement de. Fait que quand ils décident de révéler l'âge, ils doivent passer à la prochaine étape.
Ouais.
Okay? Parce que là, ils sont assez attachés.
Mm-hmm.
Et là, la prochaine étape, c'est d'aller dans le quotidien et de rencontrer les amis, les familles, et de passer du temps les couples ensemble, puis de découvrir les âges de chacun. Puis, mais tu sais, tu as des différences d'âge qui sont allées dans la série jusqu'à 34 ans de différence.
34 ans.
Un homme dans soixantaine avec une fille qui en a genre 28, là, tu sais, ça fesse, là.
Ouais.
Ça fesse, là.
Mais OK. Je sais pas...
C'est comme si je sortais avec un gars de 81 ans.
Ben regarde, sais-tu quoi la différence d'âge entre moi puis ma blonde? C'est 18.
Oui.
Sais-tu quoi la différence d'âge entre ma blonde puis mon plus vieux?
C'est quoi?
18.
Ben, oh, c'est tu fucky. Vois, c'est spécial. Mm-hmm. Mais il y en a que ça freine, ça.
Ouais.
Puis imagine si lui rencontre à un moment donné une fille qui a l'âge de ta blonde.
Ben peut-être.
Tu sais, c'est des choses qui se peuvent.
Ouais.
Puis il y a aussi l'aspect, là, Véro, t'as nommé quelque chose. Tu te dis, c'est comme si je sortais avec un gars dans les 80. Ouais. Ben l'autre affaire qui revient dans les discussions à un moment donné, parce que là, t'es dans une bulle hein, quand t'es dans ces affaires-là. Fait que sur le coup, t'es juste en amour, c'est le fun, c'est drôle. Mais là, à un moment donné, la réalité frappe sur épelaille. Dans 10 ans, moi, on va être rendu à 75. Puis toi, tu vas en avoir 32.
Tu vas vivre ta best life. Moi, je vais peut-être commencer à avoir des problèmes de santé.
C'est tout ça qui entre en compte.
Toute ma vie, ou à peu près, moi, j'ai eu un bug avec l'âge. Puis ça m'a plus bugué avec d'autres relations où j'avais des différences d'âge, des fois de 5 ans, des fois de 10 ans. Avec la mère des enfants, on avait 10 ans de différence. Mm-hmm. Puis moi, ça faisait partie des bugs que j'avais. Puis curieusement, tu sais, j'ai déjà eu une fréquentation, on avait 12 ans de différence, puis c'est probablement la raison pourquoi, ou une des raisons pourquoi j'ai pas voulu, tu sais, aller plus loin, ça me boguait. J'étais à une passe de ma vie où ça me boguait. Avec Raph, c'est 18 ans de différence, puis on dirait que j'ai pas réussi à le considérer, mais à n'importe quelle autre étape de ma vie, ça aurait probablement été un frein. Je sais pas si en vieillissant, les différences d'âge nous dérangent moins ou ça dépend des parcours de chacun aussi. Ou c'est juste, écoute, quand tu as l'impression que tu es bien avec une personne puis que tu acceptes ce sentiment-là, puis pour les gens qui étaient là au début de l'émission, on a parlé de tout ça un peu, tu sais, suivre son instinct quand tu es bien avec quelqu'un. Moi, c'est un peu ce qui est arrivé. Puis moi, j'étais le gars qui se disait, écoute, les relations de couple, c'est pas pour moi de toute façon à la base. Je suis pas un gars fidèle. Je suis pas un gars qui est capable de laisser beaucoup de place avec mes deux enfants, puis tout, puis ainsi de suite. Puis même avant ça, j'étais super égoïste. Mais à un moment donné... Tu te dis, écoute, cette personne-là, c'est ma personne préférée dans l'univers. Qu'elle ait 18 ans de moins ou 14 ans de plus...
Mais tu sais, ta blonde avait quand même déjà un parcours de vie, tu sais. C'est parce que des fois, plus t'es jeune, plus la différence d'âge
va être... Aussi.
Prends-le pas mal, Audrey. T'as le même âge que ma blonde.
Oui.
J'ai de la misère à considérer dans ma tête que vous avez le même âge.
Mais je comprends totalement. Ta blonde est dans un contexte où elle a littéralement élevé les enfants avec toi dans les dernières années.
Ça fait 10 ans.
Ça amène un tout autre aspect. J'en ai pas d'enfants. Moi, je suis dans une période où je vis ma best life depuis une couple de mois. Puis assurément qu'on n'a pas... Non, mais on n'a pas la même,
même
maturité à ce niveau-là, puis le même parcours. Ta blonde a vécu des affaires que j'ai pas vécues. Tu sais, c'est
normal. Vice versa.
Ben oui, puis je comprends. Mm-hmm. Tu sais, moi, j'aurais pas, en ce moment... Je suis à une place où je pourrais pas faire ce que ta blonde fait.
Oh, il n'y a pas grand monde qui pourrait. Il n'y a pas grand monde qui voudrait.
Pour vous dire à quel point ce concept-là attire, Netflix a sorti dans les dernières minutes, quel beau timing, les chiffres sur les écoutes de Age of Attraction. Pour la première fois, une série de télé-réalité a réussi à entrer dans le top 10 des émissions les plus regardées en 5 jours. Parce que, comme tu le mentionnais, c'est sorti le 11 mars. Ouais. On est à 3,8 millions de spectateurs sur ces 5 premiers jours-là.
Mais tu sais, Véro, c'est du vrai monde. Puis là, c'est facile à dire, c'est une télé-réalité, vous allez me dire.
On dirait qu'on a tellement vu des télé-réalités que je suis rendu avec des gros doutes.
Bien, profitez de cette saison-là, parce que la deuxième,
ça
on sera pas en même place.
Non, c'est sûr.
Mais pour une première expérience, puis ça existe dans d'autres types de concepts semblables en passant à travers le monde. Il y en a qui disent, j'ai trouvé une version française, mais ce que Netflix présente, c'est la première saison. Puis c'est animé par un couple qui a une grande différence d'âge. Oui,
Leonardo DiCaprio, puis...
Puis toutes ces blondes.
Non,
c'est lui le plus vieux, hein?
Nick Vial, quelque chose comme ça, effectivement, qui est un genre d'acteur, là. Puis c'est sa blonde, c'est une fille qui est influenceuse.
Un genre d'acteur.
Non, mais c'est parce
comprendre
que...
qu'on le verra jamais
Denis,
aux Oscars.
Les deux se présentent, puis les deux sont magnifiques, puis les deux sont un peu sans âge. Je vais dire ça comme ça, là. Puis ils commencent à raconter leurs différences d'âge, puis tu dis, OK, ils sont ensemble depuis 6 mois, mais ça fait un osto de bout de temps qu'ils sont ensemble.
Puis ils disent, là, que ça a été. Je pense que c'est 18 ans, si je me trompe pas, eux aussi. Puis que ça a été vraiment difficile au départ parce qu'elle est plus jeune, puis solidement plus jeune. Elle elle s'appelle Nathalie Joy. Puis, tu sais, ça fait partie de leur sensibilité avec les candidats aussi. Il y a 8 épisodes. C'est sorti, Véro l'a dit, le 11 mars dernier.
Ils sont sortis demain, les 8?
Pas les 8. Okay. Demain, sortent les derniers.
Mm-hmm. Où là, t'as vraiment... tellement raison que la saison 2 va tout scraper.
Ah, c'est sûr.
Ben, c'est souvent ça. Là. À partir du moment où tu sais c'est quoi l'enjeu puis comment ça marche, déjà les gens qui arrivent en connaissance de cause.
Absolument. Puis c'est parce que ça mène une curiosité. Moi, quand je regarde ce genre de série-là, pour une couple de semaines, je vais toujours suivre les personnes dans la série parce que je suis curieuse de voir comment ça finit, là, puis de voir leur quotidien ensemble. Fait qu'il y a des gens qui vont vouloir aller chercher une visibilité, là. Mais pour l'instant, Age of Attraction, je vous le dis, il y a quelque chose de sympathique. Puis c'est pas genré, là. 40 personnes entre 22 ans et 60 ans, des fois, tu remarques par la maturité assez rapidement l'âge de certains. Puis d'autres, comme Vérou ou toi, Don le dit, là, avec le bagage de vie, tu pourrais jamais dire. Fait que c'est particulier à voir.
J'ai 52 ans, nous écrit une auditrice. J'ai daté un gars plate, mais plate. Je lui ai dit que finalement, je n'irais pas plus loin et que j'avais pas de plaisir pour finalement me confier qu'il avait 31 ans. Impossible de m'en douter.
C'est fou, hein?
En plusieurs dates. Le problème, c'est qu'elle le trouvait plate, mais ça n'avait rien à voir avec une différence d'âge qu'elle ne voyait pas. Il y a Kevin qui nous a écrit tantôt, ses parents ont 22 ans. De différence.
Je m'attends de mon oncle en ont 14. Puis tu sais, je pense qu'il y a un moment dans ta vie où ça compte pas. Moi, ma crainte, c'est une crainte probablement à laquelle on pense tous, puis Denis, tu nous en avais déjà parlé aussi, mais moi, ma crainte, c'est vraiment quand tu vieillis. Tu sais, quand tu vieillis, puis la perception, oui, parce que moi, une chose qui m'a frappée dans cette émission-là, puis je m'en suis voulu parce que le jugement est venu vite, c'est à quel point ça paraît... pas si mal un gars pas mal plus vieux que sa blonde.
Versus l'inverse.
Mais la blonde qui est dans cinquantaine puis le gars qui est dans vingtaine.
Encore? Je pensais que ça avait changé, ça.
C'est spécial.
OK.
Puis pourtant, je veux dire, femme magnifique, gars magnifique. Ils sont tellement beaux ensemble. Mais tu l'écoutes expliquer ses craintes puis tu vois des previews des réactions de ses enfants puis tu te dis, ah, tu pourrais peut-être pas non plus.
Tu dis que ça passe mieux, mais tu sais, les vieux réflexes sont encore là. Tu vois un gars plus vieux qu'une fille, il a l'air d'un sugar daddy. Tu vois une fille avec un gars plus jeune, il a l'air d'un gigolo.
T'as raison.
Tu sais, c'est toujours les premiers réflexes.
Au-delà de tout ça, il y a des gens qui fitent ensemble.
Tout à fait.
Moi, j'ai eu une copine à un moment donné que son père avait une blonde depuis 7 ou 8 ans. Puis son père avait 18 ans de différence avec sa blonde. Puis quand elle m'avait dit ça, avant que je me fasse présenter son père puis sa blonde, je me disais, hey, tabarnouche, ça va paraître. Puis t'es vois ensemble, puis après 5 minutes, tu te dis, hey, eux autres, sont ensemble pour la vie.
Ouais.
Il n'y a pas de... Ça n'a rien à voir avec l'âge. Puis quand on est rembarqué dans le char après, c'est la première affaire que j'avais dit à ma copine de l'époque. J'ai dit, tabarnouche, j'ai dit, l'âge, ça n'a rien à voir. Là.
C'est fou,
ça,
hein?
Ça sautait aux yeux à quel point, quand t'es bien avec quelqu'un, l'âge... Il paraît plus.
Mais c'est une barrière mentale qui est tellement. Puis là, c'est-tu imposé par la société ou pas? Je ne sais pas.
C'est parce qu'il y a des perceptions qui viennent avec ça. Oui. Tu sais, quand, mettons, l'ancien coach des Patriots est sorti, Bill Belichick, il y a 48 ans de différence avec sa petite blonde, qui est une ancienne cheerleader ou est encore cheerleader. Il y a le jugement facile qu'elle n'est pas avec lui pour les bonnes raisons.
Mais, absolument.
C'est tout ça.
Puis il y a des affaires que tu ne te sors pas, là, que tu ne te sauves pas. Tu sais, moi, ça va bien avec ma blonde. Je l'aime, puis c'est ma personne préférée, puis tout. Mais. Quand je suis arrivé à Québec pour travailler, elle naissait.
Ah! Ta fesse.
Tu sais?
Ah ouais. Full. Puis quand tu te projettes dans le futur, tu dois te dire des fois, voyons, moi, tu es le vieux bonhomme, tu sais?
Je suis plus proche de l'âge de ses parents que de son âge à elle.
C'est ça.
C'est toutes des affaires qui... Tu sais, si tu t'attardes à ça, ça fait se fort, là.
C'est triste parce que dans les émissions, tu vois des couples qui se forment qui sont des pères extraordinaires.
Mm-hmm.
Puis quand ils connaissent l'âge l'un de l'autre...
Ça recule.
La pression est trop forte.
Oui, c'est comme... Tout s'écroule, puis là, ça a de la peine, tu comprends? Puis c'est tourmenté, puis c'est pas capable de passer par-dessus cette information-là.
C'est intéressant comme expérience.
Quelqu'un nous dit, mon père a eu une blonde pendant quelques années, ils avaient 34 ans de différence. La femme en question avait 3 ans de moins que moi seulement. J'avais avoir un petit peu de difficulté les 2 premières années.
Je comprends donc.
Bien là, tu vois, les épisodes qui sortent demain, on est rendu là. La perception des autres. Parce que là, on les sort de l'expérience et de la bulle, puis ils tombent.
Il y a des gens qui ont des enfants là-dedans?
Absolument.
Ouais.
Ah, puis quand je te dis, ça va jusqu'à 60 ans, là. Fait que t'en as que leurs enfants, là, ils ont aussi des enfants. Puis ils sont dans trentaine, leurs enfants. Fait que, tu sais, c'est quelque chose. Là.
19 ans d'écart entre mes parents. Deuxième famille de mon père. J'ai un demi-frère de 83 ans. Moi, j'ai 55 ans demain. Non, mais tu sais,
Mais ça fait partie... Puis je réalise... Moi, je trouve ça tellement hot parce que quand je regarde toi puis ta blonde, donne, mettons, là, je trippe, tu sais. Je trouve ça fou que du monde se trouve puis s'aime profondément de même. Puis c'est vraiment une barrière mentale parce que je me suis posé la question. Est-ce que je serais capable? Puis c'est comme si moi, j'étais encore dans ce petit terrain-là. Peut-être parce que mes parents n'ont pas une grosse différence d'âge, parce que j'ai jamais vu ça autour de moi, mais moi, j'étais encore dans le 5 ans maximum de plus.
Tu sais, moi, j'espère que des gens qui nous voient ensemble ont la même réaction que moi, j'ai eue quand j'ai vu le père de ma blonde à l'époque avec la fille qui avait 18 ans de différence, puis dire « Hey, crime... »
C'est un fit.
Mm-hmm. Tu sais, je me dis... Puis, il n'y a pas juste l'âge qui nous sépare, moi puis ma blonde. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est très, très, très vers les autres. Qui est très, très structuré. Ouais. Qui est très, très... Qui est loud. Habituellement, les gens qui sont loud, j'aime pas ça. Il y a quelque chose qui... Mais pourtant, avec Raph, ça fit.
Vous êtes complémentaires.
C'est dur de pas... c'est ça. À un moment donné, ça vient juste dur de nier l'évidence puis de dire, hey, pour une question de différence d'âge, je vais me priver de cette relation-là.
Je trouve ça tellement épais parce qu'on s'impose ça. Puis au final, c'est toi qui es heureux dans ta petite maison avec ton petit bonheur.
Mais je pense que tu es beaucoup plus sélectif pour les mauvaises raisons quand tu es jeune. Puis que tu te dis, j'ai toute la vie devant moi, puis c'est jetable, puis je vais retourner sur l'application, puis je vais rencontrer quelqu'un d'autre, puis ainsi de suite. Alors que quand tu vieillis, ben tu te dis, ça vaut peut-être la peine de travailler un peu plus, puis de faire un peu plus d'efforts quand tu as l'impression que tu as quelque chose avec quelqu'un.
Mais
en tout cas, moi, ça a été mon parcours.
T'as pas tort, parce que dans mes réflexions, je me suis dit, hey, je pense que... Puis là, ça va tellement sonner dégueu comment ça va sortir, OK, là, mais suivez-moi, là. On dirait qu'en ce moment, j'étais à un âge où, oui, je magasine un partenaire de vie, un amoureux, mais je magasine un papa pour mes enfants aussi.
Oui, parce que ça, même si tu te sépares, tu t'en débarrasses pas.
Non,
vous êtes partenaire là-dessus pour la vie.
Tout à fait.
Parce que toi, tu as réalisé que c'était une priorité puis qu'il fallait pas trop attendre.
Puis je veux que le papa de mes enfants...
Mais c'est très mature, ça.
...soit dans mes âges, puis soit en forme, puis soit disposé pour accompagner mes enfants le plus longtemps possible.
Parce que tu travailles avec deux vieux débris, puis tu veux pas qu'ils soient dans cet état-là avec tes enfants.
Fait que toi, le principe d'un Mick Jagger qui est rendu fucking vieux, puis qui a des enfants, eux autres qui ont des nounous, je comprends, là. C'est Al Pacino qui en a eu un aussi, il y a pas longtemps.
À 82
ans?
Ouais,
non.
Mais c'est-tu lui?
Il me semble que oui.
Mais tu vois ça, moi, c'est très personnel, mais pour le papa, le volet papa de mes enfants, je veux un petit genou dans mes âges pour être sûr que s'il m'arrive de quoi aussi, ils ont quelqu'un le plus longtemps possible. Par exemple, dans cinquantaine, pour une raison que j'ignore, à grand malheur, je me sépare du père de mes enfants. Ah, c'est pire. Je me sépare du père de mes enfants. Bien, là, je pense que je m'en tabarnouche de l'âge. Parce qu'il n'y a que moi et mon nombril et mon plaisir. Et tandis que là, j'ai une vision un peu plus large en ce moment. Fait que je pense qu'effectivement, à un certain âge, tu as raison, Dan, on s'en fout de ça. Je veux saluer un auditeur qui nous a partagé que son demi-frère avait 83 ans.
Ouais, ouais.
La maman, elle a eu son frère à 66 ans. Je trouvais que ça méritait mention parce que je sais même pas comment...
C'est la maman ou c'est le père qui avait son frère?
Ah, qui est peut-être le père.
Wow,
parce que je me disais,
non,
biologiquement, je comprends même pas comment c'est possible.
J'étais sur le bord d'appeler la police, moi, là.
La mère avait 47.
OK, mais quand même, 47.
C'est mon âge.
C'est
tard.
C'est comme si demain matin, je vous annonçais que j'étais enceinte.
C'est vrai, tu sais, ça reste que c'est à risque.
Non, je suis enceinte, Denis.
OK, non, c'est beau.
Hey, c'est la première fois que le regard se réduit. J'ai vraiment aimé ça.
Tu le connais, ce regard-là, hein?
Non, ça s'appelle la vasectomie. C'est magnifique.
Bref, Age of Attraction, je vous le conseille vraiment sur Netflix. C'est une expérience sociale. C'est vraiment ça. Je le vois pas comme une télé-réalité plus qu'une expérience sociale, pour la première saison du moins.
Il est 16h02. Vous êtes à Boulevard 102.1. C'est Gravel dans le retour. Si vous avez des choses à partager, ben rejoignez la gang au 418-971-1021.